This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو جلوبال.
From CNN Radio 6.
من راديو داشا.
O Brasil quer se vingar.
Turquia, fotora,
Slava, Rússia.
Rebonsoir et bienvenue un jour dans le monde aujourd'hui aux États-Unis et en Allemagne pour la revue de presse des correspondants de France Inter. Une belle page culture qui démarrera avec Umberto Eco au micro d'Éric Valmire et se poursuivra à Cannes. Reportage au sein de la Ciné Fondation et bilan du festival côté étranger, films étrangers avec Eva Bétan. À 18h55, alors que les djihadistes de l'organisation État islamique menacent de raser le site archéologique de Palmyre, Anthony Bélanger nous racontera une histoire totalement inverse. Elle se passe en Inde et il s'agit là de la reconstruction heureuse d'un temple. Voilà donc pour le programme. Tout de suite, direction l'Irlande.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
L'Irlande qui se prononce depuis ce matin pour ou contre le mariage gay, c'est le premier pays au monde à soumettre la question à référendum. Le oui est nettement en tête dans les sondages, signe que la société irlandaise, longtemps très conservatrice sous l'influence de l'Église catholique, a beaucoup évolué ces dernières années. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Londres, vous revenez d'Irlande. Alors il faut le rappeler Franck, ce pays a longtemps réprimé et durement l'homosexualité.
Oui, jusqu'en 1993, l'homosexualité était un crime en Irlande. Il y a encore 20 ans, très peu de gays et lesbiennes osaient faire leur coming out. Le sénateur David Norris a lui décidé, dans les années 70, de braver l'interdit et d'avouer son homosexualité. Il a entamé alors un long combat pour les droits des gays et lesbiennes. Il partait à l'époque de très loin.
Dès le début, l'Église a décrit l'homosexualité comme un crime si horrible qu'il ne devait pas être mentionné parmi les chrétiens. Donc c'était le silence absolu. J'ai grandi en pensant que j'étais le seul. Et les gens de ma génération disent tous la même chose. Je pensais être le seul. Pendant 40 ans, je n'ai pas mis les pieds dans des toilettes publiques, de peur qu'un journal me prenne en photo et dise que j'étais en train de racoler.
En 87, David Norris est devenu le premier parlementaire gay du pays. Aujourd'hui, il a 71 ans. Il reçoit dans sa belle demeure des quartiers chics de Dublin. Un drapeau arc-en-ciel est accroché à la façade. Ce personnage haut en couleur, comme on dit, raconte avec enthousiasme son incroyable parcours. Il y a 25 ans, il était hors la loi. Demain, il pourra peut-être se marier. Le oui au mariage gay, on l'a dit, est donné vainqueur par les sondages avec environ 70% des voix. Même si c'est vrai, Nicolas, il faut se méfier des sondages, hein, vous le savez bien.
On s'en souvient.
Voilà. David Norris incarne la lutte pour les droits des homosexuels en Irlande. Il a joué un rôle clé dans le combat pour la décriminalisation, puis en 2010 pour l'adoption du partenariat civil qui donne les mêmes droits que le mariage. Mais le mariage gay, c'est pour beaucoup un symbole important de l'égalité entre homo et hétérosexuels. Ce serait pour David Norris un aboutissement.
Ça montrerait au monde que l'Irlande est un pays moderne, tourné vers l'avenir, amoureux de la liberté. J'ai 71 ans, je ne m'attends pas à voir les gens faire la queue pour m'épouser, mais je suis heureux pour les jeunes. Quand je militais dans les mouvements gays, j'ai eu à traiter des cas de gens harcelés, battus, tués, emprisonnés. Ce qui s'est passé est vraiment choquant.
Il faut le noter, Franck, aujourd'hui en Irlande, tous les partis politiques font campagne pour le oui à ce mariage gay.
Et c'est étonnant, dans un pays où il n'y a pas si longtemps, le gouvernement consultait l'archevêque de Dublin pour élaborer ses projets de loi. Les quatre grands partis irlandais donc militent tous pour le oui au mariage gay. En décembre, le Premier ministre Enda Kenny du Fine Gael, un parti de centre-droit plutôt conservateur, a même bu une pinte dans un pub gay de Dublin. Simon Coveney, le ministre de la Défense et de l'Agriculture, est en charge de la campagne référendaire pour le parti Fine Gael.
Aujourd'hui, les gays qui tombent amoureux ne peuvent pas se marier et donc fonder une famille qui serait reconnue par notre constitution avec ou sans enfants. Je crois passionnément qu'il faut changer cela. Nous avons besoin de l'égalité que donne le mariage civil, la protection, le soutien mutuel, les privilèges, et tout ça garanti par l'État. C'est pour cette raison que nous avons un référendum. Et le oui permettra, j'espère, d'envoyer un signal très fort à la communauté gay. Il s'agit de leur dire qu'ils comptent en Irlande, que ce sont des citoyens de première classe et non des membres d'une société séparée de la nôtre. Mais le débat a été difficile, car le camp du non a été très actif. Et ils ne veulent pas que le mariage gay voie le jour.
Les grands partis irlandais militent donc pour le oui au changement de la Constitution pour autoriser, je cite, le mariage entre deux personnes sans distinction de sexe. Et au final, ce référendum se résume en quelque sorte à une lutte entre la classe politique, entre l'État et l'Église. L'Église catholique ne fait pas campagne officiellement contre le mariage gay, mais de nombreux évêques appellent à voter non, et l'Église est très proche des organisations qui militent pour le non et qui diffusent sur Internet des publicités comme celle-ci. Comme la plupart des gens, j'ai des questions honnêtes et j'aimerais des réponses honnêtes. Je veux savoir, par exemple, comment ça va affecter les enfants. Cette femme dit s'interroger sur l'avenir de la famille, des enfants. Le camp du non, en fait, évite les sujets religieux. Il parle surtout de questions sociales. Ray Kinsella dirige l'un des groupes qui milite contre le mariage gay. Mothers and Fathers Matter, les mères et les pères comptent. Il assure que son organisation est non religieuse. Et cela dans une salle couverte d'images de la Vierge et de photos du pape.
L'idée que vous puissiez pousser le Parlement à adopter une loi qui enlève de la Constitution les mots « père » et « mère », réalisez-vous à quel point c'est subversif, contraire au bon sens. Tous les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. C'est au cœur de notre Constitution, qui place au-dessus de tout l'intérêt des enfants. The interests
of children. En fait, l'Église franque a perdu beaucoup de son influence en Irlande.
Oui, c'est pour cette raison que le camp du non évite les arguments religieux. Les opposants au mariage gay ne mentionnent presque jamais la Bible. Ils se limitent donc aux questions de société. En Irlande, l'Église catholique a longtemps joué un rôle majeur. Elle est associée, bien sûr, à l'indépendance du pays. 84% des Irlandais se disent catholiques, mais ils sont de moins en moins pratiquants. Et surtout, ils ne considèrent plus l'Église comme une autorité morale. Tom Inglis est professeur de sociologie à University College à Dublin.
Il y avait en Irlande un respect et même une crainte de l'Église catholique. Les gens d'église, les prêtres, les nonnes étaient sacrés. Ils étaient à part, on ne pouvait pas les contredire ou les défier. Ces temps sont révolus et les scandales d'abus sexuels au sein du clergé ont sans doute accéléré ce changement.
Ces scandales très nombreux ces 20 dernières années ont terni l'image de l'Église, mais elle n'a pas perdu tout son pouvoir. L'avortement, rappelons-le, est toujours interdit en Irlande, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Et le mariage gay n'est pas encore validé. Une forte abstention, aujourd'hui, pourrait favoriser le non.
Et le résultat ne sera connu que demain, sans doute, en début d'après-midi. Merci beaucoup, Franck Madvon. Il est 18h25. C'est la revue de presse des correspondants de France Inter.
Revue de presse internationale.
Londres, Franck Madvon, France Inter.
Bonsoir, Frédéric Carbone.
Berlin, bonsoir, Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Bonsoir, Marc Crépin.
Bonsoir, Sébastien Eugénie, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris. Bonjour, heure de chez vous.
Et avant de rejoindre Cyril Sauvageau à Berlin, on s'arrête d'abord à Washington. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas.
C'est une semaine qui a été dominée chez vous par la progression de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie, avec dans la presse, j'imagine, de sérieux doutes sur la stratégie de Barack Obama dans la région.
Ah, c'est même plus que des doutes, Nicolas. Le constat cruel est fait par le Washington Post. Les frappes aériennes n'ont en rien empêché les djihadistes d'avancer. Et un éditorialiste remet en cause ce qu'il appelle les demi-mesures de Barack Obama, impliquer les États-Unis, mais sans engager réellement les soldats américains. Le président, écrit le quotidien, pouvait avoir l'espoir de stopper la progression en Irak tout en laissant le problème syrien à son successeur. Même cet optimisme modeste est aujourd'hui remis en cause. Les questions sur la stratégie américaine sont dans toute la presse. Combien d'hommes faut-il passer de 3000 à 10 000 et pourquoi faire? Apporter un soutien plus direct aux troupes irakiennes, être avec elles sur le terrain. Le Wall Street Journal a interrogé le porte-parole du ministère de la Défense irakien. « Nous ne demandons absolument pas, dit-il, que les États-Unis changent de stratégie ». À ce sombre tableau, il faut ajouter la faiblesse du pouvoir en place en Irak, du premier ministre Al-Abadi installé sous la pression des Américains. Eh bien, le New York Times décrit un homme soumis aux pressions des milices chiites. Son prédécesseur Maliki ne manque pas une occasion de le fragiliser. Voilà donc l'Irak qui redevient une obsession américaine. Barack Obama est en première ligne, mais le politologue Michael Gerson prévient dans le Washington Post, les républicains doivent sérieusement réfléchir à une politique étrangère sérieuse. L'alternative à l'invasion et l'occupation n'est pas le retrait et le repli. Vous le voyez, Nicolas, la chute de Ramadi provoque un examen de conscience et des interrogations stratégiques majeures aux États-Unis.
Changement complet de sujet, Frédéric, vous prenez des paris sur le Pulitzer de l'an prochain, le Pulitzer 2016, avec cette enquête extraordinaire du New York Times sur le monde de la manucure à New York.
Ah oui, une grande enquête qui date déjà de quelques jours. Et de quoi s'agit-il ? Tout simplement du récit d'une exploitation à grande échelle dans ce secteur en pleine expansion, celui des salons de manucure. Faut savoir que rien que dans la ville de New York, il y a 2000 enseignes où l'on s'occupe de vos ongles. Une obsession, la propreté des ongles ici. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans aux États-Unis. Et les employés, dans la quasi-totalité des cas, sont des femmes, souvent d'origine asiatique ou hispanique, souvent sans titre de séjour légal, donc très vulnérables. Le New York Times décrit le quotidien d'une de ses salariées. À l'aube, on vient la chercher en camionnette avec des dizaines d'autres, comme un bus de ramassage scolaire. Elle est déposée là où elle travaille. Cette jeune femme de 20 ans arrive tout juste de Chine. Elle a dû donner $100 à son patron pour obtenir ce travail. Les 3 premiers mois, elle n'a rien touché d'autre que les pourboires, période d'essai. Là, elle gagne $30 par jour, une misère. C'est un exemple parmi tant d'autres. La journaliste du New York Times a travaillé pendant 1 an sur cette enquête. Elle a vu des centaines de salariés rencontrer des employeurs qui justifient ce traitement. Nous faisons tourner ce commerce à notre façon pour pouvoir survivre, dit l'un d'entre eux. Elle a constaté qu'il s'agissait d'une filière, réellement. Ses petites mains sont recrutées directement en Chine. L'enquête est édifiante. Elle est publiée en anglais, en chinois, en coréen. Et elle aura des suites. Le département du travail de la ville de New York a lancé des investigations et a constaté plus d'une centaine de violations des droits des salariés en inspectant moins de 30 salons. Voilà, ça se passe à New York en 2015. Et peut-être vous ne regarderez plus tout à fait de la même manière toutes ces enseignes, souvent très colorées, dans les quartiers chics de New York.
Merci Frédéric Carbone, correspondant aux États-Unis. Et bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Correspondant à Berlin. Alors c'est le sujet du jour dans la presse allemande. 2 mois après le crash de la Germanwings, la Lufthansa envisage désormais des tests médicaux surprises pour ses pilotes.
Et c'est une piste évoquée ce matin par le PDG de la Lufthansa, Carsten Spohr, dans un entretien au Frankfurter Allgemeine. C'est la première fois qu'il s'exprime dans la presse depuis le drame du 24 mars. L'affaire Andreas Lubitz a profondément ébranlé, vous le savez, la Lufthansa, réputée jusque-là pour sa fiabilité, pour la qualité de sa formation. Et depuis le crash, la compagnie s'interroge comment renforcer efficacement le suivi psychologique et médical de ses 5400 pilotes. Comment faire surtout pour repérer un pilote fragile psychologiquement ou dépressif et qui chercherait à dissimuler sa maladie. C'est ce qui s'est passé précisément dans le cas d'Andreas Lubitz. Et depuis le début de l'enquête, la Lufthansa est sous le feu des critiques pour n'avoir pas su déceler à temps les tendances suicidaires de son copilote. L'idée, ce serait donc de mettre en place des tests médicaux surprises, comparables à des contrôles antidopage, comme on les connaît dans le sport. Et ces tests pourraient permettre, par exemple, de déceler une prise régulière d'antidépresseurs et servir de signal d'alarme. Il en va de l'image de marque de la Lufthansa, de sa réputation. Jusqu'ici, la compagnie allemande et sa filiale low cost Germanwings n'ont pas trop souffert de cette histoire. Il y a bien eu une baisse des réservations juste après le crash, mais depuis les chiffres sont positifs. La confiance des passagers à notre égard a même augmenté, assure Carsten Spohr dans cette interview. On veut bien le croire, même si certaines questions restent sans réponse. Andreas Lubitz a-t-il été suivi psychologiquement comme l'avaient demandé les médecins de la Lufthansa ? Là-dessus, le PDG reste très discret, comme il l'a été d'ailleurs depuis le début de l'enquête.
Changement de registre, là encore, Cyril. Partira, partira pas. Suspense et interrogation sur l'avenir de l'entraîneur du Bayern Munich, l'Espagnol Pep Guardiola.
Eh bien oui, c'est le feuilleton du printemps ici en Allemagne. Que va devenir Guardiola, même si le Bayern a décroché sans problème un 25e titre de champion d'Allemagne. Le bilan de l'entraîneur catalan est très discuté. Les Bavarois ont fait pâle figure en Ligue des Champions contre Barcelone, l'ancien club de Guardiola. Ils ne joueront pas la finale à Berlin et ils se sont fait sortir de Coupe d'Allemagne. Bref, Pep n'est plus le demi-dieu qu'il était il y a 2 ans en arrivant au Bayern, explique l'hebdomadaire Die Zeit. Le magazine Kicker relaie les critiques de l'ancien international Michael Ballack, qui estime que Pep Guardiola n'a pas réussi à greffer son style à celui du Bayern. De son côté, la Süddeutsche Zeitung évoque un problème d'autorité. Les rôles doivent être mieux définis entre le coach et l'équipe dirigeante. Quid de la saison prochaine donc? Alors on a d'abord donné Guardiola partant pour le club richissime de Manchester City qui lui aurait proposé le meilleur salaire du monde, rien que ça. Info démentie entre temps. On parle maintenant de l'autre club de Manchester, les Red Devils de Manchester United. Mais avant-hier, le quotidien allemand Bild, souvent bien informé, affirmait que finalement Guardiola serait prolongé pour 2 ans au Bayern. Les gens en Allemagne parlent trop, s'est contenté de dire Pep Guardiola. Affaire à suivre en tout cas. Les choses vont peut-être se dénouer assez vite dès la semaine prochaine puisqu'il y a la toute dernière journée de Bundesliga ce week-end.
Merci Cyril Sauvageau, correspondant de France Inter à Berlin. À suivre, une belle page culture. Umberto Eco au micro d'Éric Valmire et le bilan du Festival de Cannes. 18h32, un jour dans le monde, Django Django. Django Django, First Light, il est 18h35.
Thanks so much for that report.
Et place à Éric Valmire pour un partout ailleurs en Italie, ce soir avec Umberto Eco.
L'Italie de ces 40 dernières années, Nicolas, dans l'œil d'Umberto Eco. Umberto Eco qui, dans son dernier livre, numéro 0, imagine un journal en cours de montage. Une rédaction qui pense une nouvelle forme de journalisme. Avec la concurrence de la télévision, les journaux du matin n'apportent aucune nouvelle fraîche. Tout a déjà été dit la veille ou en direct. Alors, la rédaction de Domani cherche à anticiper mieux. Cette rédaction veut agir tel un moyen de pression sur les élus, devenir cercle d'influence pour peser sur les élites et les événements. En ce sens, la date choisie, 1992, période charnière entre la Première et la Deuxième République, n'est pas le fait du hasard. Il faut se positionner, tout est en mouvement, et l'on pense forcément à l'empereur des médias Silvio Berlusconi qui entre en politique avec à ses côtés un journal familial, Il Giornale, aux méthodes contestables, un peu similaires à Domani, à l'époque. Le journalisme en Italie a dû, c'est vrai, couvrir des périodes très sombres, complexes, démonter les théories du complot, affronter de vrais complots et naviguer dans d'épais écrans de fumée. De l'attentat Piazza Fontana à Milan en 69 qui ouvre les années noires du terrorisme, les brigades rouges, les milices d'extrême gauche face aux groupuscules fascistes, le traumatisme Aldo Moro, le scandale de la Banque du Vatican, les morts autour de cette affaire, la loge maçonnique Pidoué, la mort suspecte du pape Jean-Paul Ier, la corruption, les collusions avec la mafia, et en 1992, l'affaire Mainprop qui envoie en prison le tiers du Parlement et qui conduit à l'éclatement de la démocratie chrétienne, la fin d'un règne sans partage sur la gouvernance italienne pendant un demi-siècle, la saison des massacres et les assassinats des juges Falcone et Borsellino qui plongent la société italienne en plein effroi. C'est la fin de la Première République, la fin de compromission, l'avènement d'une Deuxième République où tout doit changer, une ère nouvelle pleine de promesses et où rien ne change. Umberto Eco.
C'est une date pivot. Il se passe tout ce que vous avez dit. Et donc c'était un moment où l'Italie croyait que quelque chose allait changer. Et après des ans, Berlusconi allait au pouvoir et rien n'est changé. Donc c'était un moment comme ça.
Mais on sent que c'est quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps.
Tous les autres romans m'ont demandé 6 ans chacun, 8 ans pour Le Pendule Foucault, ça je le fais dans 1 an, justement parce que j'avais déjà tout dans mes mains. Et beaucoup de ces événements, j'étais jeune homme et vivant lorsqu'ils se sont passés, donc j'étais là comme témoin.
La couverture des informations a toujours été un véritable problème, en Italie comme ailleurs, mais en Italie parce que la période était ce qu'on a décrit, la Pidoué, les services secrets, la mafia, la collusion politique, le Vatican. On a le sentiment que le journalisme peinait à raconter ces histoires-là en Italie.
Bon, mais vous savez, le problème, c'est que tous les événements dont je parle dans le roman, sauf la paranoïa d'un certain personnage qui invente que Mussolini n'a pas été tué, mais c'est la seule nouvelle fausse. Tout le reste, ce sont des nouvelles vraies. La tragédie n'est pas seulement que chaque fait se soit réellement passé, bien que c'est déjà assez tragique qu'on fait éclater une banque ou un train. C'est que tout ça a passé sans que les gens y prêtaient beaucoup d'attention, comme si à l'entrée par l'oreille gauche et sortait par l'oreille droite. On a vécu tout ça comme si c'était normal. On a continué à vivre tranquillement. Et ça est dû peut-être à l'abondance de l'information. On nous raconte autre chose. Et donc tout ça... S'ils arrêtent, dans 2 mois, on aura oublié tous les égorgements qu'on a fait en Irak. Les gens se seront habitués. Et même maintenant, ils le confondent avec un film de Quentin Tarantino.
Le fait X se produit. On ne peut pas ne pas en parler, mais ça embarrasse trop de monde. Alors, dans le même journal, on met des gros titres à faire dresser les cheveux sur la tête. On fabrique des polémiques stériles et la nouvelle se noie alors dans l'océan de l'information. Voilà ce que disent les rédacteurs de Domani.
Oui, si demain vous êtes en train de publier un article où on dénonce quelque chose de très dangereux pour moi, ma seule solution ce soir, c'est d'aller mettre une bombe à la gare de l'Est. Demain matin, 3 pages de votre journal seront occupées par la bombe et la nouvelle sur moi va finir à la page 18. Et il faudrait se demander combien de bombes n'ont pas été mises seulement pour ce propos.
L'extrapolation côtoie l'investigation. C'est incroyable.
Toutes les constructions de complot consistent à extrapoler des relations qui n'existent pas entre deux faits qui se sont passés par des raisons indépendantes. Dans mon roman, Braggadocio construit cette énorme histoire que Mussolini n'a pas été tué et donc il y a eu une présence de Mussolini qui a régi tous les événements de l'Italie pendant 50 ans. Mais tout ça part d'une extrapolation. En fait, réel est que Mussolini est passé par Como en s'échappant de Milan et il n'a pas voulu rencontrer sa famille. Pourquoi ? Nous ne savons pas. Mais c'est assez pour commencer à soupçonner qu'il ne voulait pas que sa famille le voyait, comprenait qu'il était un sosie. Voilà. Et il suffit d'extrapoler pourquoi le médecin qui a fait l'autopsie n'a pas vu une ulcère que selon des autres Mussolini avait. Donc ce n'était pas le cadavre de Mussolini. Toutes les constructions de complot, Internet en est plein, sont fondées sur des jeux de ces genres.
Et c'est ce qui crée la confusion dans les esprits.
Et oui, et ce qui rend le complot vraisemblable.
C'est quelque chose qui vous marque beaucoup, on l'avait déjà vu un peu dans les limites de l'interprétation, c'est un thème assez récurrent dans votre œuvre.
Oui, oui, le pendule de Foucault est complètement centré sur un complot cosmique qui n'existait pas, et le cimetière de Prague est fondé sur un complot politique qui a existé, qui a produit des protocoles des sages. Écoutez, ce n'est pas que le complot n'existe pas. On a fait un complot pour assassiner Jules César. Mais les complots, lorsqu'ils ont du succès, ils sont découverts. Et même lorsqu'ils ratent, la machine infernale pour tuer l'empereur, complot raté, on l'a découvert immédiatement. Les complots paranoïaques sont ceux qui n'existent pas, et donc on peut pas les contrer. On peut pas dire c'est pas vrai, c'est vrai. Ils flottent dans l'imaginaire. Et ça m'a toujours obsédé, oui. Parce que je crois que c'est une maladie sociale. On a parlé de la syndrome du complot comme une paranoïa sociale. Et si vous allez sur Internet, vous voyez combien de sites autour de complots imaginaires et comment les gens ont envie d'explications complotistes. Parce que c'est comme Karl Popper avait déjà écrit il y a 50 ans, imaginer des complots, c'est une façon de nous déresponsabiliser. Ce n'est pas nous les coupables, c'est un être mystérieux, une société secrète qui organisait tout. Il y a quelque chose de religieux dans l'idée du complot. La situation est horrible. Qui a organisé ça contre nous?
Mais c'est d'autant plus troublant que l'Italie est presque le berceau de questions sans réponse. Qui a vraiment commis Piazza Fontana, la mort du pape Jean-Paul Ier et tant d'autres choses?
Oui, mais ça c'est la crise des sociétés. Ben, vous savez, à part la mort du pape, que probablement c'était un complot imaginaire, mais on sait qui a mis les bombes ici, mais on l'a oublié. Quelqu'un est allé en prison, les autres ont réussi à s'échapper. Ce n'est pas qu'on ne sait pas. On l'a su, mais on ne se souvient pas qu'on l'a su. On a oublié tout. Ça, c'est la tragédie véritable.
Tragédie véritable parce
qu'il y a... On sait qui a mis la bombe qui a tué Falcone, et je crois qu'il est en prison.
Tragédie véritable parce qu'il n'y a pas de réponse.
On oublie la réponse, parce que si on accepte la réponse, alors il faut faire un examen de conscience plus profond.
On n'est pas très optimiste en refermant quand même numéro zéro.
Non, ce n'est pas un livre optimiste. Parfois, un écrivain a le devoir de suggérer une vision pessimiste.
Numéro zéro d'Umberto Eco chez Grasset, une critique du journalisme et du système politico-médiatique italien qui permet aussi de comprendre certains mécanismes de l'Italie de Matteo Renzi sous couvert de modernité. En coulisses, rien ne change fondamentalement.
À lire donc, merci Éric Valmire.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé.
Un jour dans le monde.
Et ceux qui creusent.
Nicolas Demorand.
Toi, tu creuses.
Sur France Inter.
Il est 18h44, direction Cannes et le studio de France Inter dans le palais du festival, où l'on retrouve Eva Bétan et Aurélien Colli. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Eva, on va faire dans quelques minutes avec vous le bilan étranger de ce festival 2015. Mais on commence avec le premier palmarès qui est tombé, celui de la Cinéfondation. Dites-nous tout Aurélien Colli.
Qui est tombé? Alors la Ciné-Fondation, oui, il y a une heure, mais attendez, d'abord je vais vous expliquer ce que c'est que la Ciné-Fondation. Ça a été créé en 1998 par l'ancien président du Festival de Cannes, qui est aujourd'hui président d'honneur, Gilles Jacob. En fait, la Ciné-Fondation, c'est tout simplement une structure qui est entièrement dédiée à la recherche de nouveaux talents partout dans le monde, des très jeunes talents. Et le plus simple, c'est tout simplement d'écouter son créateur, Gilles Jacob.
Oui, c'est mon bébé parce qu'en fait, il y a longtemps, j'avais créé le prix de la Caméra d'Or pour un premier film dans toute section de Cannes. Et je me suis demandé comment faire, prendre des enfants encore plus tôt pour qu'ils deviennent les grands du cinéma de demain. Et on a eu cette idée des films d'étudiants et des films de fin d'école dans le monde entier.
Alors depuis 1998, cette ciné-fondation reçoit chaque année des centaines et des centaines de films d'étudiants en école de cinéma qui rêvent de devenir réalisateurs. Elle en sélectionne 15 à 20 courts-métrages chaque année. Ces films sont présentés à Cannes et primés. Et les vainqueurs reçoivent une bourse qui leur permet de financer leur premier film. Sans oublier évidemment, Nicolas, la notoriété qui va avec un prix reçu à Cannes. Emmanuel Berco, par exemple, qui a réalisé La Tête Haute, qui était en ouverture du festival, était un moment dans cette sélection de la ciné-fondation.
Et c'est donc, Aurélien, ce prix de la Ciné-Fondation qui vient d'être mis.
Exactement, cette fois on y est. C'était il y a une heure à peine, en présence évidemment de Gilles Jacob qu'on entendait à l'instant, remis par un jury international, évidemment, des réalisateurs, des acteurs, des producteurs qui viennent du monde entier, et présidé par Abderrahman Sissako, qui a reçu 5 Césars pour son film Timbuktu.
Le premier prix de la Ciné-Fondation va à...
So the first prize of the Ciné-Fondation goes to...
Cher.
Directed by Pippa Bianco, United States of America.
Did he turn your phone in?
Watch. I mean, who is it?
Do you remember anything?
Did you watch?
Alors, vous l'avez entendu, la gagnante s'appelle Pippa Bianco, elle n'a même pas 30 ans, elle est américaine, et c'est son film Cher, dont on vient d'entendre un extrait qui a été primé. C'est l'histoire, en fait, Nicolas, d'une jeune fille de 15 ans qui retourne au lycée alors qu'une vidéo d'elle, dans l'intimité avec son copain, s'est propagée sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Cher, parce que vous savez, c'est cette petite icône sur laquelle on peut cliquer sur Facebook et autres pour partager avec d'autres gens un film, une vidéo ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est l'histoire de la souffrance de cette adolescence. Il n'y a pas de scène de violence, tout est dans la suggestion. Pippa Bianco, elle a voulu mettre en avant un problème qui n'est pas marginal, au contraire, c'est devenu assez fréquent aux États-Unis ces dernières années. Écoutez-la.
Malheureusement, il y a beaucoup de cas semblables, et pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. En général, des affaires comme celle-là finissent par sortir. Moi, je me suis intéressée à celles qui ne sortent pas, et qu'est-ce qui se passe quand on retourne à l'école. J'ai connu des filles qui ont été victimes de ces vidéos et des garçons qui les ont filmées aussi. Alors bien sûr, je mesure la responsabilité qui est la mienne lorsque je traite d'un sujet qui touche comme cela les gens.
Voilà, Pippa Bianco, lauréate 2015. À côté de cette compétition, Nicolas, la Ciné-Fondation fait d'autres choses encore pour porter les jeunes talents du monde entier. Il y a notamment ce qu'on appelle l'atelier qui fait se rencontrer des jeunes cinéastes et des producteurs. Il y a aussi la résidence de la Ciné-Fondation où un cinéaste vient quelques mois en France, à Paris, pour peaufiner son scénario et préparer un film. 16 films qui sont aujourd'hui dans les différentes compétitions à Cannes ont des réalisateurs, producteurs ou autres qui sont passés à un moment ou à un autre par la Ciné-Fondation. Écoutez Abderrahman Sissako, le président du jury cette année.
C'est incroyable, amener des gens d'univers complètement différents à Paris, ville de cinéma, avec la possibilité de voir toutes les cinématographies du monde au même moment, est quelque chose de magnifique, et c'est la Ciné-Fondation qui donne cette chance, la chance aussi d'être avec presque au quotidien, avec des techniciens du cinéma, des réalisateurs, et je pense que c'est une chance, et cette pépinière, si on peut l'appeler ainsi, a donné, on le sait, de très bons films. Et d'être à Cannes, c'est ça absolument qui est la plus grande vitrine quand même, pour tout cinéaste.
Abderrahman Sissako, micro d'Aurélien Colli. Merci Aurélien, et à nous maintenant Eva Bétan.
Oui.
Dites-nous alors, bilan de ce festival côté cinéma étranger. On va peut-être commencer avec l'Italie.
Écoutez, l'Italie est en forme. Vous voyez, ils ont présenté 3 films. Le film de Nanni Moretti est absolument magnifique. C'est assez classique comme principe, le fait d'alterner 2 choses. On est tantôt, puisqu'il s'agit de la mort d'une mère âgée, tantôt dans un hôpital, tantôt dans quelque chose qui va être un élément de distraction, qui est les coulisses des tournages d'un film. Oui, on a compris assez vite le principe. Ce n'est pas là-dedans que c'est novateur. C'est dans l'extrême délicatesse, dans la grâce. Il y a des films qui sont atteints de la grâce, et ce film est atteint de la grâce.
Et est-ce que vous avez pleuré alors, voilà, ou pas, Eva?
Oui, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a pleuré et beaucoup ri en même temps.
Ah bon.
Et on n'imaginerait pas qu'on puisse rire aussi, parce que c'est extrêmement drôle. Et le plan final est absolument sublime. Tant pis, c'est pas un truc de suspense, donc je peux vous le dire. La fille dit à sa mère, à quoi tu penses, maman? Et elle répond, à demain. Et je trouve que c'est la plus belle réplique pour moi du festival. Voilà, très beau film. Alors, il y a deux, si vous voulez, ce qu'il y a d'amusant, c'est que Moretti, pendant longtemps, depuis, je sais, un autre article, Palom Bella Rosa, etc., c'est le type remuant. Il est resté, hein, il est toujours pareil. Mais maintenant, il est plus âgé. Quand vous mettez Sorrentino et Matteo Garrone à côté, il fait un peu Padrino. C'est ça qui est marrant quand on a vu la photo des trois. Alors, le Sorrentino, c'est une sorte de cabotinage de luxe. Il tourne en Italie, en anglais, avec Harvey Keitel et Michael Caine. D'abord, on écoute un petit texte.
Do you see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past.
Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know a massage, a sauna, checkups with the doctor to help you get back in shape.
At my age, getting in shape is merely a waste of time.
And are you still directing or composing, maestro?
Oh, no, I'm retired.
Ça vous donne un petit peu l'ambiance. Sorrentino, c'est pas quelqu'un du cinéma réaliste. Hein. Il crée des univers. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il avait fait El Divo, La Grande Bellezza. Et là, on est dans une sorte. C'est deux vieux. Il en fait carrément des papis. Imaginez Harvey Keitel, notre Harvey Keitel, de Scorsese et tout ça, jouant un vieux au bord d'une piscine. Mais voilà, et en même temps, il y a des choses qui sont dites sur la vieillesse. C'est amusant parce que Sorrentino, il a quoi, 45 ans. Il adore filmer la vieillesse. Alors, le film de Matteo Garrone, je rappelle que Matteo Garrone, c'est lui qui avait fait le film sur la mafia, Gomorra. Là, on est dans un tout autre genre. C'est une adaptation de conte. C'est complètement baroque. Ça a été moyennement accueilli, mais il y a une inventivité formidable. Donc, si on doit rapprocher ces trois films, il y a une santé, il y a une vitalité, il y a des formes de cinéma différentes. Donc, ces trois films qui ont vraiment leur place ici dans le festival.
Alors, on change de continent maintenant, direction l'Asie. Eva, bonne santé aussi, bonne forme.
Oui, alors là, on juge sur quelques individus. Je ne vous parle là que de la compétition officielle, oui. Parce qu'on n'a pas pu tout voir. Il y a tous les pays du monde dans d'autres sélections. Là, on voit, la question qui se pose pour les cinéphiles, c'est êtes-vous Jia ou êtes-vous Wu? Je vous réponds tout de suite que je suis plutôt Jia. Jia, c'est Jia Zhangke, le grand, grand réalisateur chinois. On a diffusé son interview chez vous il y a quelques jours. Et Wu, c'est Wu Xiaoxian, le grand maître originaire de Taïwan. Jia Zhangke, vous le savez, il filme la Chine en train de se développer, en train de bouger. Ce film-là, je dirais, est moins important que d'autres films qu'il a réalisés, comme Still Life, qui était sur la construction du barrage des Trois Gorges, et il mettait en même temps une fiction dedans, ou au Touch of Sin, où il mettait plusieurs histoires dans toute la Chine, où il montrait tout, la corruption, l'immigration intérieure. Celui-ci, je dirais, plus modeste, parce que c'est une histoire plus intime, et encore modeste quand on parle de lui. Il a fait le film sur 10 ans, vous voyez, en pantant qu'il faisait d'autres films. Vous voyez, vous avez des images, parce que c'était qu'une caméra, qui vous date bien les années 90. Voilà, c'est-à-dire tout est à sa taille. À sa taille, à lui, on dit que c'est plus modeste. À la taille de quelqu'un d'autre, c'est pas modeste du tout. Donc, voilà, cet homme-là devrait se retrouver dans un palmarès. Mais il aura la Palme d'Or un jour, on prend à Paris, si vous voulez, ce que vous voulez. Wu Xiaoxian, c'est le grand cinéaste de Taïwan. Il a déjà fait, son film le plus célèbre, c'est Le Maître de Marionnettes. Mais il a fait aussi des films très contemporains, comme Millennium Mambo. Là, on est dans la série, je veux parler poliment, c'est beau, mais c'est rasoir. Non, les gens que je veux disaient beau, mais bon, bref, j'ai pas dit autre chose. C'est très très beau, mais pas moi, on comprend pas.
C'est intéressant,
Voilà, il y a une partie de la presse qui dit, mais c'est sublime, c'est comme si vous voyez un Rembrandt, chaque image est un Rembrandt. Il y a un troisième asiatique qu'il faut pas oublier, c'est Kore-eda, on en a parlé ici. Je vous dis un mot très vite parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps.
Je l'Amérique, vous le confirme.
Voilà, il n'y avait que deux cinéastes. Gus Van Sant s'est ramassé complètement. Todd Haynes, c'est beau. Il raconte une histoire à partir de Patricia Highsmith d'homosexualité féminine. C'est extrêmement délicat. Et vous retiendrez un Hongrois. Il fera discussion dans le palmarès. Il peut s'y retrouver. On en avait parlé aussi chez vous. C'est le Laszlo Nemes, le jeune réalisateur premier film qui fait un film sur comment filmer une machine de mort, le camp d'extermination. Voilà les choses. Je répète que dans la sélection officielle que j'ai retenue et qui vaille d'être notée.
Merci.
Le Fils de Saul, c'est le titre
beaucoup.
Du film.
Le Fils de Saul. Merci beaucoup Eva Bétan. Et avec votre à demain, vous nous avez mis déjà, rien qu'en le citant, les larmes aux yeux avec Anthony Bélanger et moi-même. Merci beaucoup et bon retour de Cannes. On se retrouve à Paris en studio dès que vous le voulez, Eva.
Un jour dans le monde.
Qu'allez-vous dire?
Un pour tous, tous pour un.
Merci Anthony Bélanger.
Vous pouvez, attendez, vous allez beaucoup trop vite.
Plutôt heureux maintenant?
Eh oui, il a bossé quand même. Hein.
Sur France Inter.
Voilà, on a séché nos larmes. Bonsoir Anthony.
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui, vous avez voulu terminer la semaine avec une histoire indienne de tolérance religieuse.
Eh oui, et ça fait du bien, vous allez voir. Alors imaginez une enceinte de 760 mètres de long et 400 mètres de large. Dans cet immense espace capable d'accueillir 20 000 fidèles, imaginez 18 temples, tous coiffés d'une tour, souvent dorée, et la plus haute culmine à 115 mètres. Eh bien, vous venez tout simplement de visualiser le plus grand temple hindouiste du monde. Alors ça nous semble très lointain ou très exotique, alors qu'en fait, il faut toujours rappeler qu'un être humain sur 7 appartient à cette religion millénaire. Alors le temple en question n'existe pas encore, c'est pour cela d'ailleurs que je vous demande de l'imaginer. Les travaux devraient commencer dès juin, pour s'achever d'ici à 2 ou 3 ans. Il se situera dans l'état du Bihar, non loin de la frontière népalaise. Il sera d'ailleurs antisismique et dépassera en capacité et en hauteur Angkor Wat, c'était d'ailleurs le but, faire mieux que le légendaire temple cambodgien, qui devait à l'origine d'ailleurs s'appeler le Virat Angkor Wat Ram Mandir, mais devant les remarques un poil courroucées des Cambodgiens, il s'appellera en toute simplicité le Virat Ramaya Mandir.
Alors en quoi, Anthony, ce temple de tous les records, vous venez de les décrire, est-il aussi une histoire de tolérance religieuse?
C'est vrai qu'en ce moment, il y a une surenchère religieuse dans le gigantisme. Les Saoudiens, par exemple, sont en train d'achever les travaux d'agrandissement de la grande mosquée de la Mecque pour porter sa capacité d'accueil à plus de 2 millions de fidèles. Mais pour répondre à votre question, ce qui rend l'histoire de notre super temple hindouiste remarquable, ce ne sont pas tant ses proportions que son histoire. Pour le construire, il a fallu racheter des terres, une centaine d'hectares précisément. Or, ces terres appartenaient en partie à des musulmans. Des musulmans qui non seulement n'ont fait aucune difficulté, mais qui sont souvent même offerts leurs propres terres. Un quart de la surface du futur temple a ainsi été donné par des musulmans indiens. Le reste a été racheté toujours à des musulmans indiens et à prix coûtant. C'est d'autant plus remarquable que les relations entre indiens, musulmans et hindous sont parfois très difficiles. Rappelons par exemple qu'en 2002, entre 800 et 2000 musulmans ont été massacrés dans le Gujarat, un état à l'époque gouverné par l'actuel premier ministre indien Narendra Modi.
L'histoire est belle, elle est exceptionnelle.
Alors bien sûr, elle est exceptionnelle, mais quand on regarde un petit peu près, elle n'est pas tant que ça. Plutôt cette année, d'autres musulmans, des musulmans donc indiens, ont carrément contribué à la construction de 3 autres temples hindouistes situés dans le même état du Bihar, un dédié à la déesse Gurdha et 2 à Shiva. Mais pour tout vous dire, ce que montre surtout cette histoire, c'est la colossale richesse des temples hindouistes. Parce que pour bâtir le méga-temple de Bihar, en 2 ans, je le rappelle, la fondation qui est en charge du projet a récolté sans problème près de 100 millions d'euros. Les temples hindous sont même si riches que le gouvernement actuel commence à trouver ça agaçant. Il a calculé que les temples possédaient un total de 2500 tonnes d'or pur, et je ne parle même pas des pierres précieuses. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Banque Centrale Indienne est 5 fois moins riche en or que les temples du pays. C'est d'autant plus rageant que cet or ne sert à rien. Enfin, vous savez, c'est bon, c'est l'or des dieux et des déesses, il sert à leur bon plaisir, il se contemple, mais il ne sert pas à construire des routes ou des écoles. En plus, les dieux n'aiment pas le papier-monnaie, ni même la roupie nationale. Du coup, pas question de compte bancaire. Tout est dans les temples, dans des chambres fortes, qu'on dit parfois gardées par des serpents.
Merci Anthony Bélanger.